son des bobines, Luffy femme, ses films et ses vampires.
You are too late. My blood now flows through your veins.
Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Hark, dans ma résidence.
Bienvenue sur On des Bobines, votre émission quotidienne sur le Festival international du film d'Amiens que l'on va appeler le FIFAM toute la semaine. Au programme, des interviews, des débriefs et plein d'autres surprises. Donc vous allez nous retrouver à l'antenne jusque vendredi, juste après la quotidienne Info Club Sandwich. Et tout au long de la semaine, je vais être accompagnée d'une équipe de passionnés. J'ai nommé Thomas, Gaël et Adam. Bonjour à vous trois.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Salut.
Avant de revenir sur l'interview du jour que tu nous as concocté, Thomas, j'aimerais que l'on fasse un petit retour sur la cérémonie d'ouverture et sur les films de ce week-end. Alors cette année, les vampires sont à l'honneur, mais pas seulement, car d'autres thématiques sont aussi proposées, comme l'afrofuturisme et futurisme africain, plusieurs feux-mages dont celui de Radicilla, les coups de cœur et bien sûr les longs, moyens et courts-métrages en compétition. On commence par quoi ? On commence par le film de la cérémonie d'ouverture rapidement, ça vous dit ?
Ouais.
Eh bien le film c'était Les Prédateurs de Tony Scott qui est sorti en 83 avec dans les rôles principaux Catherine Deneuve, Suzanne Sarandon et David Bowie. Et j'ai cru comprendre que c'était un des films, pas préférés, mais que vous appréciez de deux personnes autour de cette table.
Moi, j'apprécie beaucoup Tony Scott. Hein. Je trouve que c'était un grand cinéaste. Enfin, ça l'est toujours, hein, parce que ses films sont toujours là. Même si Les Prédateurs, bon, aujourd'hui, c'est un film culte. Les Prédateurs ne reflètent pas vraiment le style qu'il a fini par avoir plus tard à partir de Domino. Hein. Là, c'est un film plutôt assez chichiteux, assez clipesque, qui rappelle quand même pas mal le style de son frère, hein, qui lui est très chichiteux aussi. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Puis en plus, il y a Catherine Deneuve dedans. Alors forcément, c'est un bon film.
Et toi, Adam ?
Et bah, pareil, Tony Scott, un cinéaste qui me fascine également par son style clipesque. Il a travaillé avec son frère Ridley pendant pas mal d'années. Et en fait, Les Prédateurs, son style clipesque, il ne nous retrouvera jamais après, parce qu'après on sait très bien ce qu'il a été filmé, c'est-à-dire Top Gun, mais il y a cette espèce d'érotisme très particulier qui en fait un film assez savoureux et assez unique dans sa filmo, quoi.
Gaël, tu vas ajouter un truc. Alors toi, tu as découvert le film...
Tout à fait, parce que je rattrape toujours des petites lacunes quand je suis en festival. Oui, du coup, c'était un Tony Scott que je n'avais pas encore vu. J'aime beaucoup Tony Scott aussi. C'est deux cinéastes... Enfin, lui et Ridley, c'est vraiment deux frères qui n'ont jamais, en fait, travaillé vraiment ensemble, dans le sens où ils ont jamais fait un film ensemble. Mais par contre, leurs filmographies se sont toujours répondues respectivement, en fait. Et je trouve que, du coup, dans Les Prédateurs, il y a, pour un premier film, il y a à la fois tout le codex de la filmo de Tony, mais aussi un petit peu aussi ce qui germait aussi dans la filmo de Ridley. Et on sent déjà dès le premier film qu'en fait Tony Scott est un esthète né, quoi. Je veux dire, c'est un clipper bien évidemment, mais je veux dire, tout ce travail sur la fumée, sur cette ambiance qui fait très années 80, hein, pour le coup. Et comme, sans vouloir vous paraphraser, du coup, en effet, le trio Deneuve, Bowie et Sarandon, c'est so sexy, quoi. Genre, mon Dieu, c'est d'une classe folle, quoi. Voilà, simplement.
Alors, ce n'est pas son premier film. Il a fait des films avant.
Avant Les Prédateurs ?
En Angleterre.
C'était pas son premier ?
Non, c'est pas son premier. Il a fait des films avant en Angleterre, dont une adaptation d'Henry James.
D'accord.
Des films en costume, très british, quoi.
D'accord, je pensais que c'est son tout premier.
Et qui sont difficiles à voir, d'ailleurs, je pense.
Bon, sans transition, hein, moi, je reprends mon petit programme, puisqu'il y a eu pas mal de films à voir, pas mal de rencontres aussi. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant était diffusé au ciné Saint-Leu avec la présence de l'actrice Sarah Montpetit, que vous avez eu en interview d'ailleurs.
Tout à fait. Oui, tout à fait.
Et pas seulement, on a eu aussi Le Vourdalak de Adrien Beau samedi soir en présence du réalisateur. Et Le Vourdalak aussi, vous l'avez vu, Gaël et Adam.
Moi je l'ai vu, oui, du coup moi j'ai vu le film. C'est une belle proposition, c'est une proposition de cinéma de genre français assez singulière qui revient, on va dire, à une représentation assez ancestrale, on va dire, du mythe du vampire. C'est inspiré d'un écrit de Tolstoï, du coup. Et la particularité du film, c'est que en fait le vampire est incarné par une marionnette, en fait. C'est une marionnette, c'est un pantin qui a été conçu et incarné par Adrien Beau, du coup, le réalisateur. Et ça donne donne un film qui est pas sans défaut, hein. C'est un premier film, il est peut-être un petit peu fourre-tout dans le sens où on sent qu'il veut y mettre beaucoup de choses, on sent qu'il veut y mettre toute une théâtralité en fait, qui parfois peut lui faire un petit peu faux bon, mais globalement ça reste quand même une belle proposition, et il est venu d'ailleurs avec la tête de la marionnette, et elle est toujours aussi creepy même en dehors du film, elle est bien flippante cette marionnette, moi ouais, bah, là c'est le sang, voilà.
Ah, c'est d'après Tolstoï, d'après Alexei Tolstoï, le frère de Léon. Hein.
Oui, voilà, oui. Oui.
Et c'est une nouvelle qui avait déjà été adaptée par Mario Bava dans Les Trois Visages de la Peur.
Oui, il y a un peu de Bava dans le film. Hein. Il y a une petite vibe Bava un peu. Ouais.
C'est tourné en 16 mm. Et effectivement, oui, c'est un film que je trouve intéressant. Moi, ça me rappelle beaucoup. Alors, c'est pas péjoratif. Hein, dans ma bouche, ça ne l'est pas. Ça me rappelle beaucoup les films, des téléfilms fantastiques français de la fin des années 70, début 80.
Oui, oui.
Ouais. Ça me rappelle beaucoup ça. J'aime bien. C'est vrai que c'est un ton assez singulier.
Ah oui, oui. Il y a une théâtralité dans le jeu et tout, qui a son charme hein, aussi. Hein, mais disons.
Et c'est une belle. Enfin, pour moi, c'est une belle découverte. Je n'avais pas vu le film. C'est une belle découverte.
On a été voir aussi pas mal d'autres films. Hein, oui. Alors, ça, c'était pour samedi, mais dimanche. Alors avec Thomas, nous on a été voir Space is the Place, avec mon super accent, de John Coney qui est sorti en 1974 et qui ouvrait la thématique afrofuturisme et futurisme africain. Et avant qu'on en parle, ben moi je vous propose qu'on écoute, donc c'est une chanson que nous a interprétée en live l'artiste Eden Tinto Collins juste avant le début du film.
The sound. The sound, the sound of joy is enlightenment. Space, fire, truth is enlightenment. Space, fire, sometimes it's music. Strange mathematics, reading hope questions. The sound of thought is enlightenment. The magic light of tomorrow. Backwards. Idols of sadness, forward and onward. Idols of gladness. Enlightenment is my tomorrow. It has no plane of sorrow. Heal by my invitation, I do invite you, be of my space world.
Ah non, du coup, c'était une chanson qui a été interprétée par Eden Tinto Collins. Et donc, si on revient sur le film Space is a Place de John Coney, toi, Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, c'est un film qui s'inscrit dans la mouvance des productions qu'on appelait Blaxploitation à l'époque, hein, dans les années 70, où des cinéastes afro-américains se mettaient à faire des films d'exploitation, généralement policiers, où les méchants c'était des blancs, où, notamment qui a fait découvrir Pam Grier, hein, qui est devenu un sexe symbole à l'époque. Et là, ça respecte un peu ça. Alors, c'est fauché. C'est fauché, c'est du 4 tiers, couleur, avec des effets spéciaux faits avec les moyens du bord. Je trouve que c'est quand même un petit peu mal foutu. C'est écrit, c'est écrit par un musicien, un sonara, hein, qui incarne le personnage principal. Pour qui, l'idée du film, c'est pour trouver une place, un endroit meilleur pour les noirs, c'est aller dans l'espace. Voilà. Bon, à partir de là, ça tient sur un timbre-poste, et puis il se passe plein de trucs dans le film qui sont complètement incohérentes. Le film n'est pas cohérent, ça part dans tous les sens. Il y a un petit peu d'érotisme, il y a de l'action, puis bien sûr les méchants c'est des blancs, les gens du FBI. Mais il y a une blague qui moi m'a fait beaucoup rire. C'est quand même, ils enlèvent Sun Ra, ils le ligotent, ils lui mettent un casque audio sur les oreilles et pour les torturer, ils passent Dixie dans le casque.
Ça, c'était vachement méchant quand même. Hein.
C'est vrai que c'est méchant.
Non, mais après, le film était plutôt intéressant, mais on l'a vu en version intégrale, là, parce que normalement, il est coupé.
Oui,
il y a des scènes qui sont coupées. Et je me dis, peut-être que quand tu le vois avec la version coupée, peut-être qu'il paraît un peu plus cohérent que celui qu'on a vu là actuellement au ciné Orson Welles.
Bon, en fait, ce qu'a expliqué Meriem Rabhi, c'est ce qui a été coupé, c'est la scène de torture des jeunes femmes. Donc, mais le film n'est pas du tout linéaire. Ça part vraiment dans tous les sens. Et moi, j'ai quand même eu du mal à suivre ce qui se passe, pourquoi, comment. C'est pas de l'expérimental parce que c'est pas ça le cinéma expérimental, mais c'est vraiment un film assez étrange, quoi.
Donc du coup, je le disais, ce film il fait partie de la thématique afrofuturisme et futurisme africain, et toute la programmation elle a été en partie, puisqu'elle n'était pas toute seule, mais définie par Meriem Rabhi. Et Thomas, toi tu es allé l'interviewer. En quelques mots, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que tu vas nous proposer en interview?
J'ai demandé à Meriem Rabhi de se présenter déjà, de quelle est sa conception de la programmation, et ensuite de nous raconter un peu qu'est-ce que l'afrofuturisme, et puis aussi quel a été en gros le fil rouge de cette programmation, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de films afro, qui parlent de l'afrofuturisme, hein, qui est un courant littéraire au départ, hein, d'afrofuturisme, et qu'il a fallu faire des choix. Donc je vais poser des questions autour de ça.
Eh bien, moi je vous propose qu'on s'écoute tout de suite l'interview de Meriem Rabhi.
Alors Meriem Rabhi, vous êtes programmatrice indépendante, si je ne me trompe pas. Et vous avez participé à la programmation de la section afrofuturisme du Festival du film d'Amiens. Déjà, être programmatrice, programmer des films, pour vous, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente?
Alors oui, effectivement, donc, je suis programmatrice indépendante. Alors, ce que ça implique, alors déjà, enfin une blague, mais de grandes responsabilités. Je pense que c'est important quand même de le dire, c'est-à-dire que programmer c'est un geste à la fois théorique, pratique, artistique, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois. Et dans l'idée c'est comment est-ce qu'en fait on crée des constellations, enfin moi j'aime bien parler de ça, même si dernièrement je vois que c'est souvent quand même le terme abordé, d'essayer d'imaginer en fait les films comme des étoiles en fait dans un ciel, et où en fait on trace des lignes les unes avec les autres et on fait des dessins différents à chaque fois. Parfois on va faire des dessins étranges qui s'écartent un peu, qui peuvent avoir l'air de faire le pas de côté. Et en tout cas c'est comme ça que je perçois vraiment le geste de programmation. C'est vraiment dans l'idée de comment on crée des nouvelles narrations avec des films qui existent déjà et comment est-ce qu'on arrive à captiver les gens avec ces propositions. En répondant soit à une problématique, à des thématiques, des motifs.
Et donc, vous avez fait la programmation de la section afrofuturisme. Déjà, qu'est-ce que l'afrofuturisme?
Alors, effectivement, j'ai participé à la programmation donc afrofuturisme et futurisme africain. Donc, l'afrofuturisme, en fait, c'est un terme qui va apparaître tel quel. En tout cas, en 93, il est pensé par... Hop, mes petites notes, alors. Marc Derry, qui va dans un article « Black to the Future », donc c'est un homme blanc américain qui va, on va dire, poser le terme. Néanmoins, comme on peut le voir dans la programmation, on est sur des films aussi qui commencent dès les années 70, soit avec donc, « Space is a Place » de John Coney, qui est donc un film de 72, il me semble, qui va mettre en scène la figure donc, de Sun Ra, un artiste musical, avec qui a une esthétique et une direction, et on va dire qu'il va porter en s'inspirant notamment de l'Égypte ancienne. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans beaucoup d'œuvres. On va aussi, pour citer, on peut aussi citer par exemple Michael Jackson qui va utiliser cette esthétique dans ses clips qui vont mettre en scène le réalisme magique, l'afrofuturisme. C'est donc surtout donc c'est une branche de la science-fiction, donc c'est-à-dire des récits de futurs plus ou moins proches, qui cette fois-ci pour un peu proposer autre chose, en fait dire dans l'imaginaire collectif, la science-fiction est plutôt blanche, occidentale, et l'afrofuturisme vient répondre d'une autre manière, tant dans leur représentation, c'est-à-dire que ce sont des récits afro-centrés, c'est dans l'idée aussi de valoriser et la culture, les identités noires à travers le monde, auprès de la diaspora, mais aussi au sein du continent africain. Dans un contexte global de racisme et de discrimination, d'impérialisme, de colonisation, mais aussi avec l'histoire de l'esclavage, c'est vraiment, on va dire, des récits qui viennent à la fois poser la question du temps, du paradoxe, et d'imaginer des futurs pour réparer, pour soigner, mais surtout pour créer. Et en ça, la création devient extrêmement politique. Futurisme africain, on est. Alors, c'est African Futurisme, ça va être pensé par une autre autrice, chercheuse, qui est nigériane-américaine, et qui, cette fois-ci, veut plutôt, elle, se concentrer justement sur le continent africain, puisqu'en fait, comme on peut le voir dans une masterclass en fait, de Jean-Pierre Bécoulou, donc on va montrer un de ses films. Naked Reality, qu'il a du coup avec Pascal Obolo, qui est chercheuse et qui a fait la masterclass avec lui et qui sera d'ailleurs à notre table ronde. On va avoir, en fait, c'est-à-dire que l'afrofuturisme apparemment poserait plus des questions du retour, d'imaginer finalement qu'est-ce que cela aurait été s'il n'y avait pas eu l'exil, les déplacements soit on peut dire contraints ou forcés ou alors par d'autres pour d'autres raisons et en face il y aurait donc le futurisme africain même en face, en fait les deux se nourrissent quand finalement on est déjà là, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on imagine des futurs et voilà, ça va être un peu les distinctions qu'on va avoir dans ces termes et donc dans la programmation on a vraiment voulu mettre en avant la diversité des points de vue, la diversité des récits, des territoires aussi qui sont questionnés en fait dans ces films, en fait que les films mettent en avant et vraiment pour nous plonger un peu dans un monde très, très lumineux, vraiment solaire qui... Parce qu'au-delà donc, de la question de la représentation, on va aussi poser des questions en fait, de société. Comment penser des sociétés plus égalitaires, plus utopiques. Et en ça, d'ailleurs, l'afrofuturisme et les futurismes africains, je pense, ont nourri le courant solarpunk, dont on entend parler, un courant littéraire, créatif aussi, artistique aussi, qui pense autrement, en tout cas qui s'inspire beaucoup du cyberpunk, mais pour quelque chose de plus lumineux et de un peu moins, on va dire, pessimiste. C'est de penser les utopies.
Et est-ce qu'il y a un fil rouge qui relie tous ces films-là, la programmation, est-ce qu'elle a été difficile à mettre en place au niveau des choix, de la disponibilité des films aussi, par exemple?
Alors effectivement, ça c'est toujours les questions qu'on rencontre dans la programmation, c'est la disponibilité des films, surtout quand on essaye de faire quelque chose pour valoriser des œuvres. On essaye aussi de chercher les œuvres que les gens ne connaissent pas forcément beaucoup, qui n'ont été très peu vues, très peu diffusées. Donc ça peut poser des questions par exemple de sous-titres. Par exemple pour Space is a Place, pour la première fois, il va être montré avec des sous-titres français qui ont été faits pour l'occasion. Donc ça c'est assez important en termes de transmission, en termes de s'inscrire, en fait d'inscrire les programmations dans des historiques, puisque on va avoir aussi le film Born in Flames qui passe plutôt en festival, qui est assez connu des cinéphiles, mais finalement pas beaucoup vu. Et c'est vraiment une chance que OFIFEM on puisse montrer des films comme ça aussi et de manière différente aussi, puisqu'on va avoir le film Blade qui sera accompagné donc, de l'autrice afroféministe Laurence Fu, qui est donc une autrice qui écrit tant des romans que des bandes dessinées. Et Blade, on va pouvoir l'aborder sous un autre angle, puisque c'est un film aussi de vampires, donc ça permet de faire un petit clin d'œil en fait, à la programmation vampire, vampire marginalisé, puisque c'est exactement ce dont parle Blade. Et avec Laura, on espère pouvoir parler, on aura une discussion après séance qui nous permettra d'aborder la figure des vampires noirs, tant alors, du côté occidental, donc dans le cinéma hollywoodien ou les œuvres télévisuelles hollywoodiennes, enfin américaines, pardon, ou alors dans les folklores non occidentaux.
Eh bien, merci Thomas pour cette interview. Donc, je le rappelle, tout au long de la semaine, plusieurs films sont proposés autour de cette thématique de l'afrofuturisme et du futurisme africain. Je pense notamment à Naked Reality de Jean-Pierre Beccolo ou encore Blade de Stephen Norrington. D'ailleurs, Blade que Gaël n'a pas vu.
Oh. Allez, tout de suite, ça affiche. Non, mais c'est quoi, ça? Non, mais j'assume complètement. En effet, je n'ai pas encore vu Blade. C'est un des rares. Ah non, on dit que ce n'est pas très, très grave.
Mais le 2 est mieux.
Le 2 est meilleur, parce que c'est Del Toro, je pense. Oui. Voilà, ouais. Le 2 sont en meilleur. Mais je me suis toujours dit que je voulais voir le 2 de Del Toro, mais je me suis dit qu'il faut jouer le 1 avant. Donc là, ça va être la bonne occasion. J'y serai pour aller voir Blade 1, du coup, puisque je ne l'ai jamais vu. Voilà.
Bon, après cette petite boutade, on a encore d'autres films dans l'afrofuturisme. On a Nope de Jordan Peele aussi, qui est diffusé mercredi à 21h et c'est au Ciné Saint-Leu. Donc là, on a fait un petit tour de ce qu'on a vu ce week-end. Bon, alors il y en avait d'autres, hein. Vous avez vu aussi Le Fardeau, qui est un film en compétition.
C'est ça, Le Fardeau, qui est en compétition. Tu veux en parler peut-être un petit peu?
Très rapidement, on suit du coup l'histoire d'un couple qui est en Centrafrique et ils sont investis dans leur. Dans la mission religieuse, et en fait ils sont atteints du sida, et en fait le film va les suivre, comment est-ce qu'ils vont se guérir, parce qu'on sait que c'est un endroit du monde où les soins sont assez limités aussi, mais en même temps aussi comment est-ce que au fur et à mesure du temps ils vont pouvoir révéler la maladie. Et même d'ailleurs le réalisateur a dit que ça avait changé au cours du film quand la maladie était tombée, parce que du coup il était intervenu après le film, et en fait le film a changé sa conception durant son tournage, et ça s'est ressenti, et c'est assez impressionnant quoi.
Oui, parce que du coup c'est un documentaire de cinéma, et que comme souvent dans le documentaire de création de cinéma, il y a souvent la forme qui mute, ou même le fond aussi, qui mute aussi, parce qu'en cours de route, simplement, il y a des changements, et qu'il y a une part un peu de fiction, parfois, dans le documentaire, au départ.
Au départ, il est en mouvement, et puis après, voilà. Il se fige.
Voilà, exactement. Et en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc assez charmant dans le film, c'est que, c'est un film qui parle évidemment des croyances, et il y a tout un truc autour de la sorcellerie, par exemple, qui est assez impressionnant, et je trouve que parfois, le film flirte même un peu avec le genre, presque un peu de manière inconsciente, j'ai l'impression, parce que ça reste quand même du documentaire, bien évidemment, et quand on sait, parce que du coup à l'issue du débat le réalisateur était là, et quand on sait qu'il vise prochainement un film de fiction, ce prochain film sera un film de fiction sur la sorcellerie, bah, moi personnellement j'ai un peu hâte de le voir aller flirter avec le genre. Voilà, je me dis que ça peut donner un truc très intéressant. En tout cas, c'est un regard de cinéaste qui est en train de se construire, et je trouve que c'est plutôt fascinant. Voilà.
Oui, et puis alors comme c'est un film qui est en compétition, les films en compétition, donc que ce soit les longs, les moyens ou les courts, ils ont toujours une rediffusion, il y a au passe une seconde fois dans la semaine. Et donc pour ça, moi je vous invite à aller voir le programme du FIFAM. Et bien avant de finir ce premier épisode de notre série sur le FIFAM, on vous annonce quand même quelques séances à ne pas rater aujourd'hui. Je pense notamment aux séances donc dans l'après-midi. On a à 14h Portrait, La Matelassière de Alain Cavalier, Poireau perpétuel de Zoé Chantre, qui font partie de la catégorie film et seul. Mais c'est pas tout. Toi Thomas, il y avait aussi un truc que tu voulais proposer.
Bon, moi je vais te donner le choix. Il y a 16h45 donc l'hommage à Radicilla avec deux courts-métrages, Monologue de la muette et puis Une fenêtre ouverte. Ça c'est au Petit Théâtre et toujours à la Maison de la Culture au cinéma Orson Welles. Il y a des courts-métrages afrofuturistes dont Hello Rain de CJ Obazi, qui est un réalisateur nigérian et qui là adapte une nouvelle de Nnedi Okorafor, qui est une écrivaine d'origine nigériane qui vit aux États-Unis, et dont je recommande les romans, je recommande beaucoup les romans. Après, il y a d'autres courts-métrages, Moulika, Qu'importe si les bêtes meurent, de Sophie Alaoui, dont elle a tiré après un long métrage, dont le titre m'échappe. Je ne sais plus d'ailleurs. Voilà, le titre m'échappe. Et Moulika, je crois que c'est plutôt du vidéo art, c'est plutôt un truc plus ou moins expérimental. Et il y a Ever Reality, que celui-là, je ne l'ai pas vu.
Oui, donc une invitation à aller découvrir ces courts-métrages, toujours dans la thématique afrofuturisme. On n'a pas parlé, donc tu l'as un peu évoqué par rapport à la séance de 16h45, mais le fumage à Radicilla, on ne l'a pas encore évoqué, on l'évoquera demain. Et sinon, pour les séances à ne pas rater ce soir, donc on vous annonce à 19h, il y a au Petit Théâtre de la Maison de la Culture le film en compétition Femme and Gokland, Cully ne pleure jamais. Pour la soirée, vous avez le choix. soit toujours au Petit Théâtre à 21h15, vous avez Kuroneko de Kaneto Shindo. Ça, c'est un film que tu as vu, Thomas, et que tu as bien aimé d'ailleurs.
Une variation sur le thème du vampire avec les femmes chats au Japon. Et c'est un excellent film qui peut faire peur, hein, avec de très bonnes scènes d'angoisse avec des femmes vampires qui tuent des samouraïs. Je recommande vivement. C'est entre c'est très théâtral et puis c'est pas du tout spectaculaire. Enfin, moi, c'est un style de mise en scène que j'aime beaucoup. Donc, et puis Kaneto Shindo, c'est pas n'importe qui. Il a fait aussi des grands films comme L'île nue ou Onibaba, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma Orson Welles. Donc, Kuroneko à 21h15 au Petit Théâtre.
Bah, au cinéma Orson Welles, justement, à 21h, on peut découvrir le film de Maxime Jean-Baptiste, Coup tes voix. Et enfin, au ciné Saint-Leu, il y a en avant-première le film tant attendu de Gaël. C'est le film d'Alexis Langlois, Les Reines du Drame. Tu veux nous en dire un petit mot ?
On peut en dire un petit mot avec Adam. Parce que nous, on avait du coup vu le court-métrage d'Alexis Langlois. C'était quand ? C'était l'an dernier, je crois, il me semble. Ou peut-être il y a deux ans. Non, l'an dernier, je crois. Il y a deux ans, d'accord. Ah oui, quand même. Et c'était du coup Les Démons de Dorothy, qui était un espèce de court-métrage absolument pop, complètement halluciné, ou un peu sur l'adolescence, et très queer en plus aussi.
À ne pas confondre avec Les Démons de Minuit.
Non, du tout. Il y a une petite vibe un peu quand même quand on y pense, mais pas tellement. Non, c'est Les Démons de Dorothy. Par contre, il y a du Buffy dedans. Il y a du Buffy, et ça, vraiment. Parce qu'en fait, l'héroïne regarde une série qui est vraiment Buffy. Hein. C'est vraiment une sorte de redite de Buffy, mais super bien parodie. Enfin, je trouve, voilà. Et du coup, Les Reines du Drame, ça a l'air d'être un espèce de prolongement, hein, littéralement presque, dans son influence pop. Et on a très hâte de voir ça parce que ça a l'air fun, tout simplement. Voilà, ça a l'air fun. Et puis, c'est tout. Voilà.
Et puis, la bande-annonce est incroyable.
La bande-annonce est très originale.
Je vous invite à aller la découvrir.
Ah oui, ouais, totalement.
Eh bien, merci à vous trois pour cette première émission. Et je le rappelle, donc toute la programmation elle est disponible sur le site du festival, où vous pouvez même retrouver tous les programmes dans les points partenaires, comme à la Maison de la Culture, au Ciné Saint-Leu, au Centre Jacques Tati et même à la Maison de l'Architecture. Nous, on se retrouve demain aux mêmes heures dans On débobine, le FIFALM et ses films avec Thomas, Gaël et Adam. À demain.
À demain.
À demain.
À demain.
Et pour finir l'émission, à la retrouver sur le site de Radio Campus à Amiens.fr, bien entendu.